Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie, présente
Sud Radio CESA La France, Nathalie Schrengerma.
Bonjour à tous, il est 12h30, c'est l'heure de notre rendez-vous dédié au savoir-faire français, au beau parcours d'entrepreneurs qui font le pari du Made in France, un pari pas toujours évident, on ne cesse de vous le rappeler dans cette émission. Alors tout à l'heure, en deuxième partie de cette émission, on vous fera découvrir justement un joli parcours de femme entrepreneur, Marion Goualave, fondatrice d'Elia, élue au French Women Entrepreneur 40. Donc c'est un prix qui a été créé par la banque BNP Paribas et le Women's Forum for the Economy and Society. Et donc, il met à l'honneur 40 femmes entrepreneurs françaises qui sont à la tête de sociétés de croissance durable, tout secteur d'activité confondu. Ça, c'est tout à l'heure. Mais tout de suite, je vous propose de découvrir une façon originale de faire découvrir l'univers de l'industrie aux plus jeunes, de dépoussiérer l'image de l'industrie en France.
Sud Radio CESA La France, Nathalie Schrengerma.
Avec Industryland, et on en parle avec un de ses cofondateurs. Bonjour Nicolas Donin.
Bonjour Nathalie.
Alors Nicolas Donin, vous avez créé il y a 12 ans l'entreprise Expansalis, spécialisée dans les achats indirects. Vous travaillez avec tout type d'entreprises, vous travaillez notamment beaucoup avec des entreprises dans le secteur de l'industrie.
C'est ça.
Et vous êtes également pilote du club FFI Nord, donc la force française de l'industrie. Donc vous êtes très investi. Expliquez-nous justement comment vous avez eu l'idée de ce concept innovant qui vise à ouvrir les portes des sites de production aux familles et aux élèves.
Écoutez Nathalie, c'est plutôt simple. Moi, les industries, je les vois quasiment tous les jours dans mes clients, donc en déjeunant avec deux camarades, donc Corinne Molina et Vincent Guérinet, qui travaillent tous les deux aussi dans l'industrie, on se posait la question comment est-ce qu'on pouvait dépoussiérer l'image de l'industrie, comment est-ce qu'on pouvait décloisonner l'industrie et surtout y ramener les jeunes. Et j'aurais raconté une anecdote qui s'est produite deux ans auparavant, quand j'avais emmené ma fille de 6 ans dans une confiserie pour lui montrer que les bonbons, en tout cas en l'occurrence des Nougats, ne poussaient pas sur les étals des magasins. Elle a adoré. Deux ans après,
Donc ça veut dire qu'elle a découvert les coulisses de cette confiserie. Elle s'est rendue compte de toutes les étapes, de tous les savoir-faire, tous les corps de métier indispensables à la création de ces confiseries qu'elle allait manger avec gourmandise.
Oui, exactement. Ouais. Et en plus, de toute façon, vous parlez de gourmandise, enfin, ça commence dès qu'on pousse les portes de l'atelier, puisqu'on a les narines qui sont de suite chatouillées par les odeurs des produits qu'on met en œuvre pour fabriquer ces nougats. Et ensuite, on leur explique bien aux enfants comment ça se passe. Et donc, du début, du mélange des ingrédients, de la cuisson dans le chaudron jusqu'à l'emballage des produits. Quoi.
Et c'est la réaction de votre fille qui vous a fait prendre conscience à quel point cet univers-là n'était pas assez présent dans l'univers des enfants.
Pour elle, le fait qu'on fabrique en France, c'est formidable. Pour son esprit à elle, évidemment, elle a des 6 ans à l'époque, elle en a 9 aujourd'hui, mais le savoir qu'on pouvait fabriquer des choses à côté de chez soi, ça la rendait fière. Et surtout, elle a, puisque forcément je l'incite à en parler, mais quand elle explique à un adulte ce qu'elle a vu, alors l'adulte zoomeux, en faisant le surpris, mais elle a les yeux pétillent parce qu'elle a le sentiment d'apprendre quelque chose à un grand, et ça c'est formidable.
Mais c'est ce que vous proposez avec Industryland, une véritable promenade industrielle. Alors concrètement, comment ça se passe ?
On essaie de tenir un planning de visite. On contacte les industriels qui sont, vous le disiez tout à l'heure, notamment mes clients et puis d'autres qu'on ne connaît pas et qu'on va aller chercher. On leur demande, voilà ce qu'on aimerait faire, à savoir ouvrir vos portes à des enfants, alors ou des très jeunes, puisqu'on peut commencer à partir de 6 ans sur certains sites, ou des ados. Ça, on l'a fait notamment au mois de décembre en partenariat avec le rectorat de Lille, et on avait emmené une classe de 5e dans une tôlerie, dans une entreprise d'injection plastique ou également textile. Et là, les gamins, on leur montre que même d'ailleurs sur leurs vêtements, sur leurs chaussures, leurs habits, il y a des choses qu'ils ont qui ont été fabriquées à côté de chez eux. Et ça les épate, quoi.
Oui, c'est-à-dire que ce qu'ils mangent, ce qu'ils portent, c'est fabriqué. Il y a des entreprises. Là encore, il y a un process de fabrication. Et donc, tout ça, ils le découvrent. En fait, ils découvrent l'envers du décor grâce à Industryland.
Oui, mais surtout, à aucun moment, parce que vous avez des parents qui font ça parfois l'été sur leur lieu de vacances, mais Ils passent devant l'usine tous les jours, puisque là, en l'occurrence, le collège était à 20 minutes de l'usine qu'on a fait, et ils se posent même pas la question de savoir ce qu'il y a derrière les murs de briques. Ouais. Et donc, nous, c'est ça qu'on leur propose de faire, donc de découvrir effectivement ça, et surtout les différents métiers de l'industrie, puisque pour beaucoup de parents, et même parfois de professeurs, on est à l'industrie des années 60, l'industrie de Zola,
oui, qui
sent mauvais, que c'est sale, que c'est bruyant. Et en fait, dans cette entreprise plastique, disait donc il y a même une salle blanche, puisque selon la destination des produits, il faut vraiment que le produit soit pas pollué par l'extérieur. Et donc ça, mais surtout, ce qu'on veut aussi leur montrer, c'est que ce qu'ils apprennent à l'école va leur servir demain, parce que ce ne seront pas forcément des opérateurs sur machine, mais ça pourrait être des gens qui seront à la maintenance, dans les bureaux d'études, en recherche et développement. Et il y a un nombre de métiers dingues proposés par l'industrie qui aujourd'hui manque de bras et manque surtout de vocation. Et donc l'idée, c'est de leur montrer que ils pourraient demain travailler dans l'industrie, ce qu'on ne leur propose pas forcément dans les cursus classiques.
Pour les entreprises, finalement, il n'y a que des avantages de pouvoir sensibiliser le plus tôt les jeunes à tous ces métiers, à tous ces corps de métiers, et surtout à des métiers insoupçonnés, qu'on ne pouvait même pas imaginer un seul instant qu'ils existaient, ces métiers.
C'est ça, mais surtout, enfin, moi, quand j'ai créé ça, donc c'est ça que je voulais vous dire, c'est que c'est ma pierre à l'édifice. C'est-à-dire que évidemment, le gamin de 5e qui est venu dans cette usine-là ne sera pas l'opérateur de demain, mais ce sera l'opérateur ou l'ingénieur R&D d'après-demain. Et l'idée, c'est de semer pour plus tard, parce qu'effectivement, les enfants, c'est l'avenir. Et donc, si on ne s'y prend pas suffisamment tôt, on va passer à côté de quelque chose.
Alors aujourd'hui, IndustriLand a su convaincre combien d'entreprises? Et est-ce que, à terme, il y a cette volonté de pouvoir justement s'étendre à un niveau national?
Alors, pour l'instant, on a une demi-douzaine de sites qui sont ouverts. Bon, je rappelle que c'est une initiative bénévole, hein, donc je fais ça en plus de mon activité professionnelle qui, en ce moment notamment, l'hiver, au problème d'énergie, est assez chargé. Mais là, on est en train justement on va passer un cap. Je ne peux pas trop vous en dire aujourd'hui, rien n'est figé, mais voilà, j'ai quelqu'un qui est disponible et qui pourrait nous rejoindre dans l'aventure. Il faut qu'on aille chercher des fonds. Évidemment, puisque je peux pas, moi, salarier quelqu'un, sachant que c'est du bénévolat, oui, par rapport à ça, mais en allant chercher des fonds à la région et autres, on a déjà l'idée de couvrir un peu mieux la région dans laquelle on est aujourd'hui.
Dans le nord de la France.
Dans le nord de la France, avant effectivement de s'étendre. Et c'est là aussi que le réseau des forces françaises de l'industrie, dont je fais partie et dont j'anime le réseau local ici à Lille, va nous aider, puisqu'on a une dizaine de clubs un peu partout en France. On a Toulouse, Clermont, Bordeaux, Nantes, Nice, Lyon, Aix-Marseille. Enfin, je ne vais pas tous les faire, mais dans l'idée, une fois qu'on aura bien œuvré ici dans la région, avec mes camarades des autres antennes des FFI, pourquoi pas profiter de leur réseau sur ça pour développer là-bas d'autres concepts. Enfin, le même concept, mais dans d'autres sites, je veux dire.
Est-ce que vous pourriez rappeler à nos auditeurs ce qu'est justement ce que sont ces forces françaises de l'industrie?
Oui,
quel est votre objectif?
Alors, c'est un réseau donc d'entreprises qui ont pour thématique notamment le Made in France, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on a un certain nombre de d'entreprises qui sont avec nous au niveau national et même au niveau local, et qui en fait on permet à ces entreprises-là de se rencontrer aussi, puisque on a, moi dans mon club, j'ai des gens qui sont dans le textile, dans la poterie chaudronnerie, dans la logistique, et qui ne se voient pas forcément.
Un lieu de rencontre pour créer un écosystème assez fort autour des mêmes valeurs, hein, produire en France, fait en France, voilà. C'est privilégier les forces locales.
Privilégier les forces locales et puis surtout leur faire donc découvrir la boîte d'à côté qu'ils connaissaient pas forcément, ou même quoi, parce que là aussi dans le cadre des forces françaises de l'industrie à Lille, on organise des visites de sites industriels. Donc c'est comme ça qu'on est allé chez Coca-Cola récemment, dans une brasserie, on est allé voir une centrale nucléaire à Gravelines, des choses qu'ils n'auraient pas forcément fait indépendamment les uns des autres. Et donc on organise ces visites-là et on se retrouve autour d'une bonne table pour toujours promouvoir et faciliter les échanges des uns avec les autres, oui.
Oui, ça crée en fait un vrai lien entre les différentes entreprises d'un même territoire et qui souhaitent produire en France. Ça, c'est très important.
Oui, voire même éventuellement produire ensemble, puisque vous pouvez ne pas connaître la boîte d'à côté et pour autant, elle a peut-être une compétence pour chercher. Alors, pourquoi aller chercher à 100, 200, 300 km que vous pourriez trouver à 50 km de chez vous. Quoi.
Oui. Alors c'est étonnant quand même que ces visites d'entreprise, ça n'existe pas dans l'éducation nationale. Est-ce que, ou bien assez tard, c'est ça, dans le secondaire et pas dans le primaire?
Oui, notamment, on propose aux enfants d'aller chercher un stage, ce qui n'est pas toujours évident. Alors souvent, on va dans la boîte de papa ou dans la boîte de maman.
C'est vrai.
Mais effectivement, voilà, il y a quelques initiatives, hein, on ne va pas dire qu'il n'y a rien. Mais c'est vrai que développer comme ça, quand j'ai rencontré les gens du rectorat avec qui j'échange aujourd'hui, enfin, ça a fait tilt tout de suite. On a fait donc ce premier événement avec 30 gamins qui était juste génial. Et on est en train de discuter pour en programmer l'autre, et c'est aussi ce qui va nous inviter à essayer de grandir pour proposer plus de visites à plus d'établissements. Et donc il y a des échanges qui sont en cours, donc évidemment je ne vais pas vous parler aujourd'hui puisqu'il n'y a rien de...
On n'en saura pas plus aujourd'hui, mais on va suivre très de près.
Il faudra me rappeler dans 2-3 mois, Nathalie.
Et bon, on va suivre de près Industryland, c'est une très très belle idée, et j'espère que cette nouvelle façon justement de voir l'industrie et surtout de rendre accessible aux plus jeunes l'univers, l'envers du décor de l'industrie va se nationaliser le plus rapidement possible. On n'en sera pas plus aujourd'hui, mais on va suivre ça de très près. Merci beaucoup Nicolas Donat. Je rappelle que vous êtes le cofondateur d'Industryland et directeur du club des forces françaises de l'industrie dans le nord de la France. Merci et bon dimanche.
Merci à vous aussi Nathalie.
Au revoir.
Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie, présente
Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma.
Nous voilà de retour dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français. Et après avoir découvert ensemble Industryland, de la visite d'entreprise pour les petits et les grands, il est temps de faire la rencontre avec notre beau parcours du jour. Elle s'appelle Marion Goualave, elle a créé Elia Lingerie.
Sud Radio, c'est ça la France.
Bonjour Marion.
Bonjour Nathalie.
Alors vous avez fondé Elia avec Apolline Combrisson. Donc Elia, c'est la première marque de culottes menstruelles en fibres végétales bio et made in France. Et je tiens à le dire tout de suite, elles sont très jolies, très belles, très sexy. Donc c'est-à-dire que ça n'est pas antinomique, hein, culottes menstruelles et lingerie sexy. Et vous êtes l'une des pionnières dans ce domaine.
Exactement. Ben, merci beaucoup en tout cas de nous accorder et de nous donner la parole dans cette belle émission. Effectivement, avec Apolline, nous avons lancé en 2019 la première marque de lingerie menstruelle en fibres végétales bio, Origine France Garantie, donc certifiée Origine France Garantie, qu'on a co-conçue avec des professionnels de la santé, des ingénieurs textiles et nous-mêmes, en tout cas mon associée elle-même ingénieure. Et l'objectif, c'était de proposer une lingerie, donc des culottes, qui viennent remplacer la totalité des protections hygiéniques jetables classiques, mais qui viennent aussi
s'adapter
à tous les jours du
cycle. Est-ce que vous pouvez rappeler combien de protections on utilise en moyenne au cours d'une vie pour une femme et de quoi c'est composé ces serviettes hygiéniques?
C'est ça. Alors en fait, en moyenne, ça va être très variable d'une femme à l'autre, mais je vais vous donner un petit exemple. Moi, j'ai eu mes règles à 12 ans et quand j'ai eu 27 ans, j'ai fait le petit calcul et donc j'avais utilisé 16 000 protections hygiéniques jetables. Donc c'est autant de protections hygiéniques que j'ai jetées dans la nature, parce que la durée de vie d'une protection hygiénique, c'est entre 4 et 6 heures jetables, alors que la durée de vie d'une culotte menstruelle, c'est plutôt autour de 5 ans. Donc voilà, et donc j'ai dépensé à peu près 5 000 euros. Ouais. Pour la totalité de mes un peu plus de 10 ans de règles. Voilà, et bon, c'est quoi une protection.
D'où est venu, quel a été le déclic qui vous a, justement, qu'est-ce qui vous a donné envie de proposer une alternative éco-responsable et durable?
Alors moi, le déclic, ça a été une problématique personnelle, c'est que je souffre d'endométriose et d'adénomiose, donc ce qui me provoquait des règles totalement anarchiques pendant mon cycle. Et donc, j'avais des règles qui duraient pendant 15 jours dans le mois. Et donc, l'utilisation des protections hygiéniques jetables, en tout cas, m'était très inconfortable. Et au-delà de ça, j'avais un taux de perturbateur endocrinien qui était à l'utilisation de ces protections hygiéniques dans le sang qui était monstrueux. Et donc, qui impactait ma fertilité. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que ça cesse. Et donc, j'ai commencé la R&D, donc la recherche et développement sur le produit, à ce moment-là. Et c'est comme ça qu'est née Elia, avec l'idée de supprimer la totalité des protections hygiéniques jetables classiques, de proposer un produit hyper simple pour le corps et l'environnement, et surtout un produit qui soit transparent dans l'utilisation. Donc, on a de la dentelle, on a de la broderie, et on utilise du coton bio, sur tous nos modèles pour pouvoir remplacer les protège-slips, les serviettes hygiéniques et les tampons.
Mais une fois qu'on a l'idée, justement, Marion, après, il faut mettre en œuvre donc, tout ça, hein, cette entreprise, aller trouver le bon fournisseur, les bonnes matières premières. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué, justement, dans la création de cette entreprise ?
Alors, le plus compliqué, ça a été déjà de trouver l'assemblage et de trouver le bon tricot. C'est-à-dire que nous, on fait tous nos produits en coton. Et à l'époque, la culotte menstruelle n'existait pas, en tout cas sur le marché français. Et donc, c'était de se dire, bah, comment est-ce que je vais trouver le coton le bio le plus hydrophile, donc le plus drainant, la fibre la plus absorbante, la plus respirante, et de s'assurer que le produit soit sain et sans danger pour l'utilisatrice et les utilisateurs. Donc ça, c'était la première problématique. Et la deuxième problématique, qui n'était pas la plus facile à surmonter, c'était d'accepter de lancer ce produit sur le marché, puisque parler des règles il y a encore 4 ans et proposer un produit innovant qui soit lavable, réutilisable et qui soit joli, en fait, ouais, était assez tabou. C'était de dire, mais est-ce qu'on ne fait pas un retour en arrière, finalement ?
C'est ça, pour certains, c'était ça. C'est se retourner à ce que peut-être faisaient ses grands-parents ou ses arrière-grands-parents, quoi.
Exactement, alors que ce n'est pas du tout la même chose. Là, on va venir apporter une innovation textile qui va apporter du confort, de l'absorption et du coup aussi un autre regard sur les règles. Donc c'était plutôt ça, c'était de se dire comment est-ce qu'on va convaincre les gens d'adopter ce nouveau produit. Voilà.
Mais alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous êtes arrivé sur un marché aussi qui est, comment dire, encombré avec cette grande marque que l'on connaît tous. Voilà. Donc, il fallait changer les habitudes. Et est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, justement, quand on a des parcours d'entrepreneurs comme le vôtre, avec une histoire personnelle forte, hein, qui est à l'origine de la création de l'entreprise, ça fait la différence ? Parce qu'il y a du vécu, il y a de la sincérité, il y a un réel engagement, finalement, de votre part, de la part de ces entrepreneurs qui veulent vraiment changer les choses.
C'est ça. Alors nous, notre deadline, c'est changer les règles du jeu. Et quand on est arrivé sur le marché, il n'était pas du tout saturé parce que personne ne connaissait la culotte de règles. Par contre, tout le monde, effectivement, utilisait des serviettes et des tampons. Donc, en fait, c'est comme je disais tout à l'heure, l'objectif, c'était vraiment de créer une nouvelle habitude de consommation. Et donc, en général, quand on parlait de notre business, on disait oui, c'est un marché de niche. Alors que pas du tout, en fait, c'est pas un marché de niche, ouais, puisque la moitié de la population, bah, sont des femmes. Et sur les femmes, bah, il y en a bien plus de la moitié qui sont réglées. Puisqu'on est réglé un peu plus de 40 ans dans sa vie. Donc, l'idée, c'était de toucher une nouvelle, c'était plutôt de créer une nouvelle façon de consommer. Et donc là, on est plutôt arrivé. Ouais. Et aujourd'hui, on l'aide aussi. Cette nouvelle habitude, elle est aussi créée par les grands groupes qui nous ont vu arriver, start-up avec des valeurs, une réelle envie de changer les règles et de changer la façon de vivre ce moment. Et donc qui se rallient, on va dire, à la cause. Alors peut-être pas avec les mêmes produits que nous, mais en proposant des produits jetables, enfin qui ne sont plus seulement jetables mais plutôt lavables. Et donc oui, ça a été. C'était plus un combat à l'époque de consommation plutôt que de concurrence, vous voyez.
Ouais.
Donc ça a été
ce que vous voulez dire.
Voilà.
Et quand on parle de réel engagement, c'est que vous, à côté, vous avez aussi créé une plateforme de santé en ligne.
Exactement. L'idée chez Elia, c'est de... Alors nous, la marque s'appelle Elia et pas Elia Lingerie, même si le site s'appelle elia-lingerie.com, c'est de proposer un produit et tout l'accompagnement de santé qui va autour, parce qu'on s'est rendu compte, et c'est aussi très lié à mon histoire personnelle, qu'aujourd'hui, une femme réglée, une personne menstruée, ben, elle va pas forcément avoir la bonne info au bon moment quand elle en a besoin. Et donc, c'est de se dire ben, comment est-ce qu'elle peut prendre en main sa santé avec une info qui soit vérace, donc créée par des professionnels de la santé, pour pouvoir se dire, ok, là, il faut que j'aille consulter. Là, ben, j'ai des gens qui sont dans la même situation que moi, donc je suis pas un cas exceptionnel. Et donc, c'est de se dire, ben voilà, avec Elia, on a le produit et on a tout l'accompagnement de santé qui va avec. Et ça, pour nous, c'est un vrai engagement. Et au-delà de cet engagement-là, on va aussi s'investir auprès d'associations, auprès de fondations qui vont traiter l'endométriose, qui vont traiter la précarité menstruelle, qui vont aussi s'engager pour le climat dans un autre registre. Mais c'est de se dire, voilà, on est une marque engagée de bout en bout, de la conception de nos produits jusqu'à la distribution, jusqu'à la réinsertion dans l'économie, on va dire, donc avec tout un tas de certifications qui montrent encore plus notre engagement.
Merci encore Marion Gualaf pour votre témoignage. Je rappelle, vous êtes à la tête de Elia, une entreprise que vous avez créée avec Apolline Combrisson. Encore un grand bravo pour votre parcours et surtout d'avoir réussi à vous imposer dans ce secteur-là et d'être l'une des pionnières, on l'a rappelé il y a un instant. Merci beaucoup.
Merci
et belle journée
à
vous Marion Gualaf.
Merci, bonne journée, à bientôt, au revoir.
Au revoir. Allez, il est temps d'aller se balader avec Thibaut, notre French Trotter.
Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut, le French Trotter.
Bonjour Thibaut.
Bonjour Nathalie.
Alors, vous avez rencontré des passionnés de voitures anciennes qui valorisent à leur manière le patrimoine roulant français.
Exactement, j'ai assisté à la 23e traversée de Paris qui a eu lieu dans la capitale il y a quelques jours. Et c'est l'occasion de voir défiler des véhicules de toutes les époques. Alors on peut y voir des tractions d'avant-guerre, des anciennes Citroën, des vieilles Renault, mais aussi des motos et des tracteurs.
Waouh.
Et leur point commun, ce sont uniquement des véhicules qui ont plus de 30 ans.
Ah
et
oui.
Et comme vous le disiez, ils représentent un patrimoine inestimable. On va écouter Yann, un passionné de deux chevaux, qui nous en dit plus sur cette traversée.
Le principe, c'est de se donner rendez-vous et tous les clubs et tous les amateurs de vieux véhicules traversent Paris en ayant plusieurs points de chute. Ça part du château de Vincennes et puis on arrive jusqu'à la Concorde qui est un ralliement final de toutes les vieilles voitures. Alors, tracteurs, bus, il y a plein de choses.
Vous vous retrouvez entre passionnés ?
Tout à fait, entre passionnés, entre adhérents de clubs, entre juste l'amour des vieux moteurs et voilà.
Et pourquoi vous avez choisi de sortir la deux chevaux aujourd'hui ?
Par convivialité et puis dans Paris, la traversée de Paris, les deux chevaux ça représente beaucoup de choses pour la France. Quoi, donc voilà.
Ça représente quoi justement ?
Ça représente un mythe. Tout le monde a une histoire avec une deux chevaux.
Vous par exemple ?
Moi ? Mais mon grand-père avait une deux chevaux, donc du coup, j'ai eu l'occasion d'en racheter une, donc je l'ai fait.
Vous l'avez acheté quand ?
Il y a 5 ans maintenant.
5 ans ? Vous l'avez restaurée ? Vous l'avez bichonnée ?
Elle a été restaurée, ouais. Elle a été restaurée pour vivre encore un peu plus longtemps, quoi. Voilà.
Vous la sortez souvent ?
Dès que j'ai l'occasion de le faire. Après, j'ai de la chance d'avoir d'autres véhicules, donc elle sort pas systématiquement.
Vous êtes vraiment un pur collectionneur ?
Je suis un collectionneur dans la mesure de ce que je peux faire, voilà.
C'est vrai qu'on a tous une histoire avec la deux chevaux. Moi, je sais que mon papa, jeune, a eu aussi sa deux chevaux. Hein. C'est un symbole,
voilà.
C'est une belle réussite de l'industrie automobile à la française. J'aimerais savoir qui organise d'ailleurs ces traversées de Paris.
L'organisateur, c'est une association qui s'appelle Vincennes en Ancienne, qui regroupe des propriétaires, des amoureux, des véhicules anciens. Et il faut savoir qu'elle organise aussi une traversée de Paris estivale et ça se passe au mois de juillet.
Ah, noté dans nos tablettes.
Bien noté. Mais revenons à la dernière édition avec d'autres passionnés comme Philippe qui ne jure que par la mythique DS, une Citroën.
Écoutez, je roule en DS depuis les années 80. Je suis tombé dedans parce que j'ai un ami qui en avait une et qui m'a tout de suite été la voiture que je voulais. Et donc depuis, je roule en DS quoi, depuis les années 80 et je suis tombé amoureux depuis de cette DS.
C'est la voiture des présidents de la République ? C'était la voiture ?
Du général de Gaulle, oui, tout à fait, tout à fait, oui, tout à fait.
Votre plus beau souvenir lié à cette voiture, c'est quoi ?
Alors, mon plus beau souvenir, parce qu'en fait, comme je fais de la location, je fais des mariages. Et j'ai emmené des gens pour des mariages, donc c'est vrai que c'est pour moi c'est quelque chose de bien.
Qu'est-ce qu'ils vous disent ?
Qu'ils sont soit amoureux de ces voitures parce qu'ils ont eu un grand-père qui les a amenés petites dans la voiture. Et pour eux, ça leur ramène beaucoup de souvenirs. Quoi.
Bonjour, vous appelez comment ?
Je m'appelle Benoît. Vous savez combien de temps vous collectionnez les voitures anciennes ?
Depuis peu. En fait, je suis passé très tardivement aux voitures de collection. Depuis un mois.
Depuis un mois ? Mais c'est tout récent alors ?
Ouais, tout récent cette voiture-là. J'ai eu la chance de trouver une première main et de l'équiper taxi sur les derniers jours.
Cette voiture, on va la décrire, c'est une Renault 10, c'est ça ?
C'est une Renault 10 de 1969. J'ai toujours voulu acheter une voiture de mon année de naissance.
On connaît votre âge.
On connaît mon âge.
On peut la décrire un petit peu ?
Alors, donc c'est un moteur Cléon de 1100 cm3.
Pour les spécialistes.
Voilà, pour les spécialistes. 45 chevaux. 132 km/h vitesse maxi. Donc on utilise les nationales et départementales forcément. C'est le plaisir de rouler avec des voitures anciennes et prendre tout son temps, tout simplement.
Donc vous l'avez customisé, vous avez récupéré un sigle de taxi.
Voilà, j'ai récupéré une enseigne de taxi, un taximètre des années 70 et j'ai installé une galerie également pour mettre des valises vintage dessus.
C'est la première d'une future collection.
Franchement, je m'arrêterai à ce genre de véhicule. Après, j'ai regardé d'autres véhicules comme des tractions, des 403. Il y a tellement de choix aujourd'hui qu'il faut se faire plaisir avec un petit budget.
Et c'est bien tout le monde ?
Ouais, c'est franchement, pour moins de 10 000 euros, vous faites plaisir.
C'est plaisir.
Et ça donne envie de partir sur les routes mythiques et de prendre tout son temps, comme le dit Benoît. Merci Thibaut pour cette belle découverte. On se retrouve la semaine prochaine.
Le rendez-vous est pris.
Merci à vous, chers auditeurs. Je vous souhaite un bon dimanche. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, 12h30 sur Sud Radio, même radio bien évidemment. Passez un bon moment en famille.
Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, chaque jour aux côtés des artisans, vous a présenté
Sud Radio, c'est ça la France.